11h. Demain, lundi 29 juin, fête des apôtres Saint Pierre et Saint Paul. Elle fait partie des 10 fêtes chômées du Code de droit canon. Il y aura une messe solennelle à 10h, puis vêpres et salut du Très Saint Sacrement à 18h. Jeudi, vendredi et samedi sont les premiers jeudi, vendredi et samedi du mois. Samedi 4 juillet, premier samedi du mois, messe à 6h30, 10h et 18h30. La communauté sera en récollection mensuelle. Le Saint-Sacrement sera exposé de 15h à 18h45. Le mois de juillet est consacré à honorer le précieux sang de notre Seigneur. Le sang de notre Seigneur est le prix de notre salut. Nous recevons les fruits de ce sang versé, en particulier à chaque fois que nous nous approchons d'un sacrement. Le sang de notre Seigneur est donc notre salut, notre vie, la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Pour l'honorer et le vénérer avec l'Église pendant ce mois de juillet, nous pouvons réciter chaque jour la litanie du précieux sang. Vous en trouverez un exemplaire sur notre table de presse, car elle ne se trouve pas dans tous les missels. La chaleur revient, et avec elle la tentation d'immodestie dans les vêtements. Saint Paul nous le dit, « Ne vous conformez pas à ce siècle. Vous êtes baptisés, cela doit se voir extérieurement. Et si vous êtes en état de grâce, la très sainte Trinité habite en vous. Il faut en être conscient, concrètement, à l'Église, bien sûr, mais même à la maison, gardez votre corps correctement couvert, buste, bras, jambes. Et surtout, ne faites pas d'arguties sur les longueurs. Couvrez-vous tout simplement. Sinon, que de péchés qui peuvent vite devenir graves. Merci, chers fidèles, de donner le bon exemple et de répandre la bonne odeur de Jésus-Christ par des vêtements décents qui vous couvrent réellement le corps. Tâchez aussi de bien organiser ces mois d'été. Que ces mois de vacances soient un temps pour se parler en famille, pour faire des visites qui élèvent l'esprit. Profitez-en aussi pour faire de bonnes lectures. Notre bibliothèque de prêt est à votre disposition. Une sainte occupation est d'aller passer quelques jours de retraite spirituelle pour reprendre des forces pour l'année. Nous prêchons au couvent une retraite pour messieurs et jeunes gens du 6 au 11 juillet et une retraite pour foyers et fiancés du 13 au 18 juillet. Il reste encore quelques places. En un mot, que ces mois de juillet et d'août soient profitables non seulement pour votre corps, pour le reposer un peu, mais aussi pour votre âme. Encore deux annonces. À la sortie de la messe aura lieu une vente de bières belges. Deuxième annonce, jusqu'au mois de septembre, la messe du dimanche à 11h sera une messe lue. Enfin, dimanche prochain, 5 juillet, sera le cinquième dimanche après la Pentecôte. Le Père Alain pourra donner ses premières bénédictions ce même dimanche, 5 juillet, après les messes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile de ce jour nous fait le récit d'une pêche. Pêche insolite, miraculeuse, ayant notre Seigneur pour l'auteur. Au début de sa vie publique, Jésus-Christ avait déjà quelques disciples. Disciples qu'on peut appeler intermittents. Après avoir assisté à quelques prédications de leur maître, qui parlait bien, qui faisait même des miracles, ils retournaient, juste après, dans leur famille et à leurs travaux. Tels les deux frères, Simon et André, tous les deux pêcheurs de métier. Mais à un moment, le Sauveur veut transformer ses disciples irréguliers, qui ressemblent un peu trop à ceux qui font leurs études par correspondance, en de vrais étudiants, disciples attachés à leur maître d'une façon complète et définitive, pour ainsi les préparer au ministère apostolique. Et il se sert pour cela d'un miracle, qui sera en même temps pour eux un enseignement. Un matin, Jésus-Christ se trouve sur une des rives du lac de Tibériade. Il est entouré d'une foule nombreuse venue pour l'écouter. Mais cette foule est si grande que, pour la contenir et en même temps pour se faire entendre plus facilement, il a recours à un moyen très pratique. Quand ce lac est calme, il est presque immobile et ne produit aucun bruit qui peut empêcher de distinguer des paroles prononcées à voix haute. Il suffit alors de s'éloigner de quelques mètres de la plage sur une barque et on peut de là parler à l'auditoire resté sur la plage. Et le divin prédicateur fait ainsi. Tout près, il y a deux petites barques. Ses propriétaires, descendus sur le rivage, s'occupaient à remettre en état leur filet. L'un d'eux était Simon-Pierre, et c'est dans la barque de celui-ci que Jésus monte, pris de s'éloigner un peu de la terre, et de là, il prêche. On voudrait bien savoir quel était le sujet de cette prédication. Mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'une fois le prêche fini, le prédicateur se tourne vers son bienfaiteur et lui dit de prendre le large pour jeter les filets. Le bienfait demande sa récompense. Cette invitation semble, à notre pêcheur de profession, une ironie, une plaisanterie. La nuit précédente a été une nuit de tempête, temps idéal pour la pêche. Et Simon s'est donné beaucoup de mal avec ses compagnons pour ne rien prendre. Mais, plein de déférence pour celui qu'il appelle déjà son maître, il dit en substance à Jésus, « C'est vous qui êtes le patron, vous n'avez qu'à parler. » Pour Pierre, une parole de Jésus, c'est tout. Même si humainement parlant, il n'a aucune confiance en la nouvelle tentative. En effet, la lumière du jour apporte un nouvel obstacle. Et si, la nuit, les choses ont mal marché, le jour ce serait encore pire. Pour la forme, on jette donc les filets, mais aussitôt on commence à prendre tant de poissons que les filets ne résistent pas à ce poids et menacent à se rompre. On appelle les compagnons de l'autre barque pour donner un coup de main. La barque vient, mais on continue encore longtemps à charger, au point que les deux barques sont près de couler, tellement elles sont remplies de poissons. On nous dira que cette pêche n'était qu'un heureux hasard. Simon, qui s'y connaissait, n'était pas de cet avis. Il a prévu un résultat bien différent. Et il n'était pas le seul. Les pêcheurs de l'autre barque, Jacques et Jean, étaient stupéfiés. Ils savaient tous que le poisson ne se laisse pas faire. Et il faut pour l'avoir beaucoup de peine et beaucoup de chance. Simon-Pierre est saisi plus que les autres, plus que ses trois compagnons, il comprend quel est l'auteur et quelle est la nature de cette pêche. Sans dire aucun mot, Jésus a commandé au poisson, comme d'autres fois on l'a vu commander au démon ou à la fièvre. Un banc de poisson se trouvait là comme exprès et le voilà pris. Le futur premier pape se sent tout petit, est sur le plancher de sa barque et avec tous ces poissons qui la font s'enfoncer, il dit à son maître, la gorge serrée, les genoux pliés, éloignez-vous de moi, je suis un homme pécheur. On connaît la suite. Cette réplique de notre Seigneur, réplique pleine d'amitié et d'empire. N'aie pas peur. À partir de ce moment, ce sont des hommes que tu captureras tout vif, tout vivant. Symbole de l'avenir de sa mission d'apôtre. Voilà, chers fidèles, comment un prêche original se termina par une pêche miraculeuse. Les quatre premiers disciples en ont tiré une leçon pratique. Il faut aider Jésus dans son ouvrage, quitter tout et le suivre. Et pour nous, chers fidèles, est-ce que notre Seigneur ne réserve pas une petite leçon à en tirer? Peut-être la suivante. Selon que notre travail, quel qu'il soit, est fait sans Jésus ou avec Jésus, il sera stérile ou bien fructueux. Nous allons voir juste deux points. Premièrement, travailler avec notre Seigneur, c'est tout d'abord se conserver toujours en état de grâce. Se conserver toujours en état de grâce. Selon la comparaison que le Sauveur nous a donnée, celui du cep. Le cep de la vigne ne prospère que s'il reste uni au tronc pour en recevoir la vie, la sève vivifiante. Par contre, agir dans l'état de péché mortel, sans la grâce, ou sous l'empire de telle ou telle passion, la colère, la haine, c'est travailler sans Jésus. C'est produire des œuvres mortes, qui ne laissent après elles que remords, troubles ou découragement. C'est travailler dans la nuit, sans rien prendre. Deuxièmement, travailler sans Jésus, c'est aussi travailler sans pureté d'intention. Sans pureté d'intention. Selon notre volonté propre, sans chercher ni la gloire, ni le bon plaisir de Dieu. C'est à mesure de leur pureté, disait une sainte, c'est à mesure de leur pureté que Dieu récompense nos actions. En d'autres termes, il agrée et récompense nos œuvres à proportion de notre pureté d'intention. Mais qu'il est difficile de trouver une action faite uniquement pour Dieu. C'est surtout l'amour-propre, le désir de paraître qui font perdre totalement ou presque le fruit de nos bonnes œuvres. C'est la parole même de notre Seigneur. Prenez garde à ne pas faire votre justice devant les hommes pour être vu d'eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Et plus loin, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais quelle récompense? Un peu de fumée, une satisfaction d'un moment. Rien qui peut rester dans l'âme et lui être profitable. Comment, chers fidèles, pratiquement discerner si l'on fait quelque chose pour Dieu seul ou pour soi-même? Voici quelques signes. Est-ce qu'on conserve la paix dans l'insuccès? Peut-être Dieu ne veut pas que je réussisse. Est-ce que je me réjouis du bien que font les autres, comme si c'était moi-même qui l'ai fait? Mon devoir, une fois accompli, est-ce que je recherche, si ce n'est pas une louange, du moins un merci? Le vénérable Jean d'Avila avait l'habitude de s'adresser aux louanges comme si elles étaient des êtres raisonnables. Passez votre chemin, c'est trop tard, j'ai déjà tout donné à Dieu. Par conséquent, si les critiques ou les blâmes surviennent, est-ce que je m'en afflige ou pas? Est-ce que je me contente d'avoir contenté Dieu? On a représenté la pureté d'intention comme une alchimie céleste, par laquelle le fer se transforme en or, c'est-à-dire que les actions les plus communes, telles que travailler, faire le ménage, la lessive, la cuisine, manger, prendre son repos, etc., se changent si on les fait pour Dieu, en cet or divin qui est la charité. On peut formuler cette intention toute pure, par exemple dans la prière du matin, à renouveler, si possible, avant ou pendant une action. Une des prières de Fatima s'y prête très bien. Rappelons-la. Ô Jésus, c'est pour votre amour, tout ce que je ferai dans la journée ou ce que je vais faire dans un instant. Pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Que notre Mère Immaculée nous garde toujours dans la grâce, ou qu'elle nous aide, si nécessaire, à la recouvrer rapidement. Qu'elle purifie notre intention, qu'elle la façonne sur la sienne, pour que notre travail fait avec Jésus porte des fruits pour l'éternité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.